bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec pour cette semaine de vacances scolaires une sélection d'émissions 100% bonne vibration en compagnie de la bande au grand complet. Pour débuter, il était venu nous présenter sa bande dessinée événement L'Arabe du futur, le tome 4, voici Riyad Sattouf. Une jeunesse au Moyen-Orient, L'Arabe du futur, le numéro 4 déjà, et c'est pas fini. J'espère que c'est pas fini parce que vu la fin du numéro 4,
ouais, c'est ça. Il faut une suite là.
On a qu'une envie, c'est de se jeter sur la suite.
Que faites-vous ici, Riyad? D'aller travailler au prochain tome. Moi, je veux savoir la suite.
Je suis sûr qu'il a déjà commencé.
C'est comme une vraie série télé, c'est ça qui est fou, c'est addictif. Je les regarde dans ma bibliothèque et je me dis bientôt le cinquième. Je fais tout un étage, Riyad Sattouf.
Tu les ouvres pas, tu regardes que les couvertures.
Je mets les Pascal Brutal, L'Arabe du futur. Je mets voilà, c'est t'as une étagère rien que pour toi, Riyad Sattouf à la maison.
Ah, ça me fait. Vous allez bien? Oui, avec ça, ça va bien. Oui. On peut arrêter l'émission maintenant. Alors. Non, on va la commencer avec des questions sur Riyad Sattouf. On va voir qui connaît bien Riyad ou pas. Déjà enfant, Riyad ne pouvait concevoir un dessin sans dessiner quoi?
Lui?
Non.
Les cheveux.
Zizi.
Oh, ça va.
Mais quoi, ça va?
Les cheveux.
Assume, t'as dit zizi.
Non. Tintin.
Non.
Ses parents.
C'est un chien.
Non, c'est une... dans sa manière de dessiner, il a quelque chose.
Les couleurs.
Alors, c'est dans ce domaine-là.
Le bleu, le rouge.
Il a quelque chose qui est essentiel dans ses dessins. Et encore dans l'Arabe du futur.
Les ombres.
Exactement.
Wouhou.
Les ombres.
C'est vrai.
Mais pourquoi ça vous travaille tant, les ombres?
J'arrive pas trop à savoir, mais c'est vrai que quand je regarde les gens, même, je vois les ombres, comment elles sont. Je sais pas, c'est un trou sur le sol, je sais pas, il y a quelque chose de...
Et sinon, ça va?
Non, ce qui est intéressant, c'est que qui dit ombre dit soleil, donc dit aussi forcément mécaniquement lumière.
Mais, sans doute parce que j'étais myope aussi et que ça, j'étais pas corrigé. Et donc,
c'est aussi, pas corrigé.
Ouais, on a mis longtemps avant de s'en rendre compte.
C'était déjà dans l'Arabe du futur.
Et c'est hyper intéressant parce que dans la ligne claire, chez Hergé, que vous aimez beaucoup, que tu aimes beaucoup, il n'y a pas d'ombre. Il y a jamais d'ombre, sauf dans Objectif Lune,
et dans sur la Lune, mystérieuse.
Et l'Étoile mystérieuse. C'est les seuls albums où il y a des ombres. Sinon, il y a jamais d'ombre chez Hergé.
Des malades, ils repèrent où il y a de l'ombre dans une.
Non, mais c'est important graphiquement.
Mais vous êtes des grands malades quand même.
Non, c'est d'un point de vue esthétique.
Ça change quoi alors? Vas-y.
Ça change beaucoup de choses. Ça donne une poésie étrange. C'est apparemment réaliste. La ligne claire, et bizarrement, ça montre qu'il y a quelque chose en plus, il y a la poésie qui s'installe, parce que un monde sans ombre, ça n'existe pas.
Et c'est un talent de dessinateur d'arriver à dessiner l'ombre, c'est un savoir-faire.
Ouais. Bien sûr.
Tous les dessinateurs ne savent pas le faire.
Bien sûr que non.
Et vous,
bien
instinctivement, Riyad, c'était l'ombre dès le départ.
Même petit.
Mais oui.
Sans apprentissage, en plus.
J'étais très découragé quand j'arrivais pas à dessiner une ombre parfaite. Et je dessinais à toute vitesse un bonhomme, et après je passais des heures à essayer de dessiner une ombre. C'était un peu un tic, en fait, un tic de maniaque.
Question suivante. Riyad Sattouf a exigé une chose de son éditeur pour la sortie.
Du pognon!
2 millions! Pour la sortie de ce tome 4. Si vous l'avez lu, vous avez remarqué. Une chose.
Le rouge, il veut checker le rouge lui-même.
Non.
Si on l'a lu, on l'a remarqué.
Ouais. C'est plus dans la fabrication du.
Sur le papier, la qualité du papier recyclé.
Le papier recyclé, il est beaucoup plus grand, il y en a beaucoup plus de
pages. Le papier mâché.
C'est le même format.
C'est qu'il y a du blanc, le blanc.
Mais Riyad, faut pas.
La qualité du blanc, c'est un vrai blanc, un blanc.
Il y a du tissu.
Non!
C'est tissé, il est relié.
Non, mais il a mimé.
Mais vous voulez sortir avec elle ou quoi?
Mais pas du tout!
C'est de l'aider.
C'est de drague là.
Mais n'importe quoi!
C'est très gênant ce qui se passe dans ce studio.
Moi, je suis déçu, là. Franchement, j'enlève ma bibliothèque à la maison.
Ouais. Vous vouliez qu'il soit cousu plutôt que collé?
Oui. Oui, parce que quand un livre est cousu, il le supporte beaucoup mieux les relectures successives.
Ouais, sinon les pages se détachent.
Mais en fait, comme il était imprimé à vraiment beaucoup d'exemplaires, c'est une aberration de le coudre. En général, tous les livres, même tout le temps, les livres qui sont édités à autant d'exemplaires sont collés. Mm-hmm. Ce qui fait qu'au bout de la troisième fois, ils se délitent. Ouais. Et ça
n'existe. Mais c'est pas non plus, enfin, mécaniquement, le fait qu'il y ait plus de 280 pages, ils sont pas obligés de le coudre?
Non, pas du tout. Non, parce que c'est des cahiers, si vous regardez sur la tranche. Enfin, je suis un maniaque de la fabrication, donc des livres, donc on voit tout à fait que c'est des petits cahiers comme ça, ils sont chacun cousus à l'intérieur.
Ouais. Pourquoi Riyad Sattouf Pourquoi Riyad Sattouf est très fier quand un article est publié sur lui dans Paris Match?
Parce que sa maman lit ça, sa grand-mère lisait ça.
Exactement.
C'est les lectures à la maison, c'est dans la BD ça.
Ah, j'adore Paris Match, j'avoue. Je continue encore à le regarder de temps en temps.
Non, mais parce que c'est.
Il y a des collections dégueulasses.
J'ai les vieilles collections de ma mamie.
Moi, j'en ai, je pourrais t'en donner.
C'est culturel dans la famille, c'est ça. Gamin, Riyad Sattouf rêvait de devenir qui?
Magicien.
Non, quelqu'un de connu.
Émile Louis.
Non. Tom Cruise.
Non. Oui, il y a une bonne. Tom
Christophe
Cruise.
Castaner.
Un acteur.
Oui.
Un acteur.
Errol Flynn.
Schwarzenegger.
Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger.
Je l'aime. Je l'adore. Je le trouve beau. Je peux regarder quand je regarde son.
Terminator.
Son corps et tout. Je me calme.
C'est quoi, c'est la musculature, les abdos, les...
Oui, en fait, c'est vrai que quand j'ai.
Vous savez que ça se travaille, vous êtes au courant.
Bah, je sais.
Vous pouvez y arriver.
Ouais, c'est quand même très difficile. Hein. C'est quand même un travail énorme. Faut de la souffrance sans fin.
Comme mais tout. Là, c'est par procuration, ouais, c'est bien.
Moi, je pensais que la vie était. On commençait petit, après on était enfant, ado, et on finissait ultra musclé.
C'est ce qu'il y a dans la bande dessinée.
C'est arrivé tout seul. Ouais, c'est ça.
Un jour, je grandirai comme lui.
Nagui, c'est l'itinéraire inverse.
Et ben voilà, c'est gratuit.
C'est totalement gratuit.
Ouais, ça fait du bien.
À qui ça fait du bien?
Bah lui, vraisemblablement.
Ah, moi aussi, j'ai.
Concentrez-vous parce que je vous mets une tollée, là.
Quel est le premier CD que Riyad Satouf a acheté?
Thriller.
Non.
Trilleuse.
CD. Céline Dion?
Non.
C'est une chanteuse ?
Non.
Un chanteur.
Enfin, il y a une voix de fille. Oui, oui, mais c'est plutôt des...
Ah bah.
Il y a plusieurs musiques, on va dire, dessus. C'est la BO d'un film, quel film ? Voilà, je vous aide.
Top Gun.
Oui.
Oh là là,
trop bien !
Tom Cruise à fond !
Take my breath away, baby.
En vrai, c'est une bonne femme.
Karaoké.
Ah, j'ai des frissons, la règle d'entendre.
Ah ben moi, de vous entendre chanter, j'ai des frissons aussi.
Vous entendez cette musique ? Vous voyez quoi ?
C'est horrible ce que tu fais.
Tom Cruise au ralenti.
Non, c'est la chanson durant leur scène d'amour. Quand il fait l'amour avec la fille. Et donc on les voit en ombre comme ça, il y a cette parce qu'en fait ils sont dans deux mondes différents, il y a lui qui est pilote de chasse, c'est une forte tête et elle est instructrice, c'est un peu
Je le raconte comme si c'était un roman du 19e, ouais, c'est un truc un peu
et tout ça avec cette voix très fluette très naturelle, très légère qui vient vous dire non, j'aime Arnold Schwarzenegger, j'aime Top Gun, j'aime la violence, j'aime les muscles, j'aime les armes. Ça ne vous va pas
j'aime
du tout.
J'aime Pascal Bretal.
Non mais alors cette voix, vous en parlez dans la bande dessinée, on va parler quand même de l'Arabe du futur 4 puisque c'est vous, c'est vraiment votre histoire, c'est vraiment votre vie, j'imagine avec quelques exagérations ou en tout cas il y a des nuits de rêve et de fantasmes, donc c'est peut-être là où l'imaginaire peut prendre sa place, tout le reste est vrai.
Non, sincèrement il y a très peu d'exagérations, je dirais qu'il y a plutôt des aspects que j'ai diminués pour les rendre plus crédibles.
Arrondi des angles.
J'ai arrondi, pas forcément arrondi des angles. C'est comme quand on mange un plat très 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 pimenté, on baisse un petit peu le piment pour quand même sentir les autres goûts. Parce qu'il y a certaines scènes qui étaient beaucoup plus rudes que ça. Donc j'exagère pas. Alors après, le dessin est un peu exagéré. C'est vrai que je fais des gros nez, les bonhommes sont un peu déformés. Donc on peut penser. J'essaie de rendre ça un peu.
Ça, c'est dans la forme, mais dans le fond, en tout cas, tout est vrai.
Ah, oui,
les
vraiment.
Tensions entre papa et maman, les déménagements, les allers-retours de papa, presque le côté mytho de papa, la manière dont il raconte. Sa carrière de prof, que ce soit en Arabie Saoudite ou ce qu'il a vécu en Syrie, tout est vrai.
Oui, parce que de toute manière, c'est vrai que l'Arabe du futur, c'était une manière de raconter une histoire personnelle que j'ai jamais pu partager dans la vraie vie parce qu'elle était trop excessive, justement.
Pourquoi ?
C'est quand je le racontais à mes potes ou à mes petites copines, jamais elles me croyaient. Enfin, non, mais en même temps, on peut pas imaginer ça. Donc c'est vrai que quand je l'ai fait en livre, je me libère de cette histoire et ça me permet d'avoir, avec les lecteurs, je suis hyper heureux quand je vais en librairie et qu'ils viennent, ils connaissent ma famille mieux que moi. En fait, je sais pas comment. Il y a ça que ce que je raconte dans l'Arabe du futur 4, parce qu'il y a le secret familial que j'avais jamais raconté et qui est à la base du projet de l'Arabe du futur. C'est vrai que cet aspect des choses, c'est un. Quand on à cette époque-là, on se sentait très seul en fait dans notre famille. Et maintenant, avec tous ces gens qui s'intéressent, qui veulent la suite, qui se demandent, c'est complètement différent en fait. Donc je ne peux pas inventer. Sinon, ce serait malhonnête vis-à-vis de moi-même.
Vous dites le secret familial. Il y en a plusieurs des secrets. C'est blindé de secrets. Donc quelle a été
c'est la fin. Ce qu'il ne faut pas raconter à la fin.
D'accord. Ok. Donc c'est
non la mais dernière planche,
le cliffhanger.
Voilà.
De la fin.
On attend le tome 5. Ça, ça a été le déclic pour écrire l'Arabe du futur.
Oui, parce que de toute manière, il fallait que je raconte cet événement que je n'avais jamais réussi à raconter. Et pour raconter cet événement...
Et qu'on ne pourra toujours pas raconter aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Ça va être une émission de radio impossible.
Mais je voulais le partager avec les lecteurs avant d'en parler. Voilà, c'est vraiment un événement dramatique.
Oui, c'est un événement dramatique. Et en fait, vous nous prépare, enfin non, vous ne nous préparez pas parce qu'on est quand même surpris par, par l'apparition de cet événement, mais vous préparez le terrain, on a bien le contexte, on comprend ce qui se passe, les rapports, j'ai presque envie de dire de force au sein de la famille, le fait que quand vous allez dans un pays arabe, on vous traite de sale juif et on vous envoie des cailloux sur le visage, le fait que quand vous êtes en France, on vous traite de sale arabe et on vous envoie aussi des cailloux...
Pas vraiment de sale arabe, non. C'est surtout que j'avais pas un nom à connotation arabe, j'avais un nom à connotation ridicule avant. C'est que Satouf, ça fait rire tout de suite, quoi.
Matouf, Tatouf.
Matouf, Tatouf.
Et Riyad, ça devient Griyad.
Griyad, je te grille la touffe.
Donc c'est Griyad, Griyad Matouf, quoi. C'est la vanne, c'était Griyad Matouf. Ouais. Mais,
mais c'est bien, c'est que vous exorcisez ça dans oui, un livre de manière très drôle.
Ça me faisait rire un peu quand même aussi.
Ouais, enfin, pas tous les jours.
C'est un peu ridicule de s'appeler Griyad Matouf. Mais je me disais, mais pourquoi mes parents n'ont pas pensé à la blague que ça pouvait donner au début.
Mais c'est quand même une rupture cet album-là, parce qu'on sent dans les trois précédents quelque chose monter, et on peut trouver jusqu'au troisième tome la figure paternelle amusante, un petit peu souriante, et finalement dans ce quatrième tome, on commence à se dire tiens, les choses compliquées démarrent.
Bah disons, ça suit aussi la prise de conscience de l'enfant, parce que quand on est tout petit, on admire ses parents, donc mon père a toujours été raciste, antisémite, hyper brutal. Voilà, c'était un moderniste par certains aspects, mais aussi il voulait faire des coups d'État, il rêvait d'exécuter les socialistes. Enfin, il était complètement.
Il adorait Saddam Hussein.
Il adorait Saddam Hussein.
Il a un portrait de vous, Nagui. C'est étonnant, c'est ça.
Non, et puis moi, j'ai trouvé fortement désagréable avec votre maman. Autant il est adorable avec les enfants, autant il.
Ah bah non, mais de toute manière, voilà, il était lui s'identifiait à Saddam Hussein. C'était un personnage très important pour lui, parce qu'il estimait qu'il avait le même genre de destin. Saddam Hussein venait d'un tout petit village où il avait grandi comme un miséreux. Il avait fui la violence de son beau-père. Ensuite, Saddam Hussein s'était retrouvé chez son oncle et était devenu quelqu'un d'éduqué grâce à son oncle instituteur. Et ensuite, il avait fait un superbe coup d'État et était devenu président de l'Irak. C'était le rêve de mon père de suivre ce parcours. Et donc, c'est évident qu'à un moment de sa vie, il s'est rendu compte que ses rêves s'éloignaient, qu'il ne ferait sans doute jamais de coup d'État, que ma mère en avait ras-le-bol de vivre dans des dictatures, etc. Et donc, c'est le moment où il a commencé à changer. Mmh. C'est ce que je raconte dans le livre.
Parce que votre mère, elle a du répondant. Elle est tout à fait remarquable dans le livre.
Elle a tenu la boutique.
Non, mais c'est vrai. Elle a espéré longtemps que mon père devienne milliardaire, quand même. Ça pouvait,
c'est ce qu'il lui disait. C'est
normal, ça pouvait se passer, après tout.
Non, mais c'est ce qu'il lui disait.
C'est ce qu'il lui disait.
Il lui disait qu'il avait un compte à Jersey. Un compte à Jersey, et qu'il y mettait des lingots d'or, et qu'il y mettait de l'argent. D'ailleurs, il y a une scène qui est plutôt vers la fin de l'Arabe du Futur 4, où il pète un câble en disant « Mais puisque c'est ça, on va aller acheter, dis-moi ce que tu veux, des baskets. Mais c'est pas assez cher, trouve quelque chose de plus cher pour montrer qu'il a de l'argent. »
Ah oui, il était obsédé par le pognon, complètement obsédé par le pognon.
Oui, mais par le regard des autres.
Par le regard des autres sur l'argent, etc. Et c'est vrai que, en fait, c'est pour ça aussi que j'adore Paris Match. C'est que grâce à Paris Match, un jour, il y a eu un article sur l'Arabie Saoudite dans Paris Match, et ma mère a refusé d'aller en Arabie Saoudite grâce à cet article qui racontait la vie en Arabie Saoudite, etc. Donc mon père, lui, a préféré aller travailler là-bas. Parce que l'Arabie Saoudite, pour les gens de mon village en Syrie, c'était l'Eldorado. Mmh. C'était le lieu, évidemment, où il y avait la Mecque pour le faire son pèlerinage, mais c'était aussi le lieu où on était puissamment payé en milliers de dollars toute la journée. Tout le monde avait des grosses bagnoles et des trucs comme ça. Donc, il rêvait de ça.
Et il comptait même les grosses voitures en allant à pied à l'université.
Il était obsédé par les Mercedes.
Et dès qu'il finissait un cours, il disait, voilà, encore 150 euros de gagner.
150
dollars de gagner facilement.
Exactement.
Même avec des scènes aussi qui sont étonnantes, mais qui permettent de mieux comprendre la montée de cette espèce d'intégrisme, c'est-à-dire la façon dont la religion est un poids, le regard sur les femmes ou l'absence de regard sur les femmes. Un, elles doivent être voilées. Deux, quand il y a des cours donnés à des étudiantes, ça se fait par caméra interposée pour pas qu'ils croisent le regard des étudiantes qui sont dans d'autres salles. C'est, on a l'impression de vivre, à part les caméras, mais de vivre des siècles en arrière.
Oui, ou un film de science-fiction. Un peu. Je sais que quand il me racontait que voilà, il y avait des jours où il donnait des cours à des étudiants hommes, il les voyait comme un vrai prof. Et quand c'était les filles, l'université était vide, il savait pas par où arrivaient les filles. Et il entrait, il allait dans une petite pièce, là il y a une caméra, la lumière rouge s'allumait, ça voulait dire qu'il pouvait commencer son cours. Donc il parlait devant cette caméra, mais il voyait pas les élèves. Et de temps en temps, il y avait une petite lumière qui s'allumait, ça voulait dire qu'une élève voulait lui poser une question. Là, il appuyait et on entendait une voix qui demandait. Mais il pouvait pas aller voir et être en contact avec elle.
Ça, il y a pas dans la bande dessinée, il y a juste la lumière comme quoi c'est fini.
Le cours se termine. Ouais. Et c'est vrai que c'est stupéfiant quand on est gamin d'entendre ce genre d'histoire. On se dit, mais pourquoi en France c'est pas comme ça?
Lui ne peut pas croiser le regard des étudiantes. Vous aimez bien croiser les fesses des femmes.
Non, c'est surtout
quoi, ce qui... Non, rien, dites pas.
Laissez-moi va préciser.
Pâques les fesses, Pâques les fesses. Alors, le visage
c'est que,
aussi.
En fait, c'est vrai que dans ce livre aussi, je raconte comment le père, peu à peu, devient de plus en plus obtus d'esprit. Et donc, il n'arrêtait pas de me répéter que les filles étaient le diable et le mal, qu'il ne fallait pas s'en approcher, sinon elles nous entraîneraient dans les flammes de l'enfer. Et de l'autre côté, j'avais mon grand-père français, qui était ultra terrorisé à l'idée que je devienne homo, et qui était méga obsédé sexuel. Et donc, quand on allait au supermarché, il passait son temps à montrer les filles, à me dire, mais regarde là, regarde comment elle est, celle-là. Et alors, c'était toujours un peu gênant, parce que, avec des gens de sa famille, c'est toujours un peu gênant de faire ça. Je disais, ah oui, oui, mais il disait, ses fesses, regarde ses fesses. C'est bien, t'as vu les belles jambes qu'elle a, et tout. Et je me forçais à essayer de m'intéresser à ça.
Et le dessin est très drôle, parce que vous confrontez dans une même bulle.
Les jambes.
La vision du grand-père, qui voit des jambes élancées avec des talons et quelque chose d'assez érotique, et puis
réalité.
Vous, des poteaux avec des sabots aux pieds. Quoi.
Non, il a fallu des années avant que je vois ce qui pouvait être intéressant dans des jambes de femme ou des talons ou des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on est coincé entre deux feux comme ça, on choisit en général d'être dessinateur.
Oui, mais vous êtes sensible au parfum des femmes, vous êtes sensible à la chaleur de leurs mains quand elles se posent sur votre tête.
À
vous
la
êtes...
transpiration, à l'odeur.
À l'odeur.
Un peu...
Rassurante.
Oui, rassurante de la transpiration.
J'adore les odeurs.
La sueur.
Ouais, les odeurs, c'est très très important. Tout le monde sent une odeur en fait. Là, même dans ce studio, je sens quand même quelques odeurs. Là.
On va sortir. L'Arabe du futur 4, cette jeunesse au Moyen-Orient, pas uniquement au Moyen-Orient, c'est vraiment cette division qu'il y a entre la France, Rennes, et le Moyen-Orient, avec des allers-retours, avec des billets d'avion qui se... Pas mal de voyages quand même, vous avez été pas mal transbahuté dans votre enfance.
Hein. Oui. C'est vrai que l'Arabe du futur, c'est aussi un journal de voyage, en fait. Je l'ai voulu comme ça dès le départ. C'est des descriptions de faits. Quand on est enfant, on n'a aucun contrôle sur sa vie. En tout cas, moi, j'en avais aucun. Il arrivait un jour, j'étais content d'être en France, paf, on devait prendre l'avion et on se retrouvait tout de suite en quelques heures dans un autre pays, un autre cadre, avec une autre langue, une autre genre.
Et c'est comment l'éducation est faite lorsqu'il y a deux cultures qui normalement devraient se compléter mais par moments s'opposent pour éduquer trois enfants.
Oui. Après, c'est vrai que ce que je veux montrer aussi dans l'Arabe du futur, c'est que c'est pas si éloigné que ça dans les deux aspects. On peut penser que c'est éloigné. Par exemple, pour un détail qui n'est pas sur les... Dans le second volume de l'Arabe du futur, je raconte comment on était tapé à l'école.
Oui.
Et donc c'est vrai que le maître tapait les élèves avec la règle, etc. Et quand j'ai raconté cette histoire dans le livre, les gens disaient c'est incroyable, quelle violence, quelle brutalité, etc. Mais quand je vais en dédicace dans les librairies, de temps en temps, je rencontre des personnes âgées et des papys qui me disent mais vous savez, moi, dans mon école communale, me faisais taper dans la gueule par le prof, je prenais des gifles, c'était avant mai 68.
Très bonne image. Imitation du vieux Berry Gourdin.
Je ne peux pas faire avec un accent comme ça. Il se faisait frapper.
Salle,
et puis voilà, oui, dans la salle. Alors, ce n'est pas que la Syrie, hein, c'est mai 68 qui a tout changé. C'est pas... Et c'est vrai que ça permet de prendre aussi.
Et la règle par terre, on doit se mettre à genoux dessus.
J'aime bien voilà.
Ça, Albert, il a été éduqué comme ça.
Et moi aussi.
Oui, c'était l'ère des punitions corporelles.
C'est vrai, bien sûr. C'est pareil, c'est vrai que dans le village de Termalais, les gens il n'y avait pas de sexualité libre, etc. Mais ça ressemble au village paysan français au début du siècle. C'était un petit peu comme ça aussi. J'aime bien mettre les choses un peu en.
Non, mais encore une fois, c'est l'excès de religion qui crée la scission. C'est d'un coup, les cinq prières, c'est le père qui fait la prière devant tout le monde, alors qu'avant, il allait se mettre dans son coin pour la faire. C'est la manière dont il fait du prosélytisme aussi.
Oui, c'est vrai, mais c'était
y compris d'ailleurs dans les pays arabes, il fait du prosélytisme
partout. Non, mais c'est vrai, voilà. Mais je crois qu'il a toujours le conflit a toujours été présent dans sa tête entre la modernité et la tradition. Comment on arrive à allier les deux? Comment on est pour une éducation des masses, etc. Mais en croyant que le diable existe, il y a deux choses qui entrent en conflit. À un moment, il y a un des deux qui finit par prendre le dessus sur l'autre. En général, c'est quand on vieillit, je crois. Ça arrive souvent que des petites mamies se mettent à aller à l'église avoir rien fait, pour en avoir puissamment profiter toute leur vie, et à la fin elles vont expier leurs péchés. C'est un petit peu le même processus.
Et puis il y a le passage pèlerinage à la Mecque aussi, qui fait que tout d'un coup il devient le Helge, et il est...
Il est enfin considéré par, dans son
il
village.
Il devient quoi?
Helge. C'est Hajj.
Qui a fait Hajj. Le pèlerinage.
C'est ce titre que tu as.
Parlez français,
mais oui, mademoiselle. Mais comme c'est un mot qui n'est pas français, alors on le prononce. Dites, donc à partir du moment où tu fais le pèlerinage.
C'est quoi, il avait dit quoi, Guillermo?
On est en France, il y a des mots pour ça. Mais il n'y a pas de mots pour dire Hajj. C'est un peu le titre que tu as quand tu sors de la Mecque, que tu sois un homme ou une femme. Tu n'es même plus appelé par ton prénom, tu es appelé Hajj ou Hajj.
Il y avait un des grands leaders de la révolution algérienne, Messali Hajj. Il était connu parce qu'il avait fait le pèlerinage à la Mecque.
Ça change l'homme.
Sauf que là, le pèlerinage, il s'est passé moyennement. C'est-à-dire que
non, il s'était bien passé. Il n'a pas
voulu toucher la pierre à cause d'un handicapé.
Ah oui, bah oui, oui. Parce que mon père, il avait horreur
des.
Il avait peur qu'il ait la lèpre.
Oui, oui, parce qu'il y avait un handicapé derrière.
Il a un moignon.
Il avait un moignon et il a touché la pierre. Il dit ah, mais il m'a gâché mon moment. Je voulais toucher la pierre. Il y a ce. J'avais peur d'attraper la lèpre. Après, il a repensé. Il disait ah, j'aurais pas dû me moquer de lui. Enfin voilà, c'est tout un. Mais c'est vrai que le fait d'être considéré par les autres dans son village, c'était quelque chose qui recherchait, parce que tous ses copains d'enfance étaient illettrés et analphabètes. Lui seul était le seul, il y avait que lui à avoir fait des études. Et donc quand il est revenu dans son village, il voulait être considéré comme un docteur et un homme important. Les gens s'en foutaient totalement. C'est ce que je rends compte dans la BD. Mais par contre, quand il est revenu après avoir fait son pèlerinage à la Mecque, ça y est, tout le monde avait changé d'attitude et il faisait des longues morales et il expliquait comment fallait vivre, etc. C'était juste sa manière à lui d'avoir l'attention et le respect des autres. Ouais.
Et encore une fois, le regard des autres. Hein. Là aussi, c'est pareil. C'est drôle, on l'a pas assez dit. Hein, mais en tout cas, c'est drôle, c'est poignant aussi, c'est émouvant.
On voit la transformation.
C'est touchant, c'est intelligent,
garçon.
C'est vachement bien. Ouais.
Ouais, on voit la transformation super. De ce petit garçon blondiné le plus beau du monde, vous, Riyad, enfant.
Il est au classement number one à l'école.
C'est vrai. Ouais. Par pour ses beaux cheveux blonds.
C'est vrai.
Et puis, patatras, à un moment, il faut les couper.
Le vent, la tempête des hormones est passée à emporter avec elle la
blondeur.
Cheveux blonds des enfants.
Pas la voix. Hein.
J'ai toujours la même voix que quand j'avais 10 ans.
La voix blonde.
L'Arabe du futur 4, c'est relié coups humains par Alary Édition, signé Riyad Satouf, Maréchal Ganache. Ah. C'est un succès annoncé.
Hein. Écoutez, vous savez, mon cher Nagui, Riyad Satouf, outre un sens très aigu de l'observation et un esprit critique très subtil, sans parler des autres qualités vantées par tout le monde depuis le début de cette émission, Riyad possède ce qui est très rare chez un dessinateur, le sens du comique, vous venez de le dire, qui amalgame la drôlerie à la pureté, et ce qui semble paradoxal, il s'est allié l'ironie à la bienveillance. Ah putain, nom de Dieu, ça me fait du bien d'être brillant de temps en temps. Et d'ailleurs, c'était l'avis de mon ami Albert Algou qui me le disait hier encore, alors qu'il me rendait visite. J'avais 20 ans. Alors qu'il me rendait visite, comme il le fait souvent, au vieux gland, mon EHPAD. Ce que vous ne faites jamais, Nagui.
Bah, vu le nom, j'ai pas envie d'y aller.
Oui, vous n'êtes jamais venu. Alors, qu'est-ce qu'il me disait déjà, Albert?
Je pas retrouver la ligne.
Ah, oui. Maréchal, vous allez voir, Nagui, j'imite à la perfection la voix d'Albert Algou.
C'est un conseil que je vous donne, retrouvez la ligne.
Maréchal, si le destin n'avait pas voulu que vous trocassiez le stylo contre la baïonnette, vous auriez fait un formidable critique d'art. Ah, voilà ce qu'il m'a dit Albert.
Très belle imitation d'Albert. Oui.
En plus, il est sympa et modeste. Je serais gêné que je parle de lui comme ça. Bon, quant à vous, mon cher Nagui, je vous avais dit à GNB, notre rédac chef, qui se sent plus depuis que son copain, l'ancien maire de Coulommiers, Franck Rister, est ministre de la Culture.
Oui, il a un ami ministre.
Alors, quand il vous a annoncé, GNB, à 11h05, tout à l'heure, la raison de l'avenue de Riyad Satouf, j'avoue que ça m'a laissé, non pas sur le cul, car depuis la terrible mutilation que m'infligèrent les Viet en 54 à Gangbang Phok, je protège constamment mes arrières contre... J'avoue, ça m'a laissé pantois. Malheureusement, je n'imite pas aussi bien votre voix, Nagui, que celle d'Albert Algou, mais voilà ce que vous avez dit. L'Arabe du futur, GNB, tu as bien dit l'Arabe du futur, par les mamelles de Cléopâtre, pour qui se prend ce barbouilleur syro-celtique. Si encore il employait l'article indéfini en disant qu'il était un Arabe du futur. Mais non, il se définit carrément comme l'unique Arabe que tous admireront un jour. Mais quelle vanité, quelle fatuité. Le succès lui monte à la couche poussière. J'ai bien envie pour lui rabasser son caquet, de raconter la fin de l'album. Mais oui, oh mon maître, je le sais.
Cette imitation est lamentable.
C'est honteux.
Je sais, j'ai du mal en ce moment.
Excusez-les,
avec
tu sors.
Mais oui, oh, ta gueule. Mais oui, oh mon maître, je le sais. Le seul et
en plus,
unique
en plus,
arabe.
C'est quoi, il gagne du temps, ça va faire le 3 fois plus de droits d'auteur.
Les droits d'auteur, bien sûr. Le seul et unique arabe que tout le monde a admiré et admirera, il est là devant moi, c'est vous et personne d'autre. Ceci dit, impossible de décommander Riyad Satouf. Et surtout, ne racontez pas la fin du volume. Voilà, chère Yann, comment se prépare la bande originale? Comme je vois que Nagui cherche à vous tirer les vers du nez, je voudrais bien raconter comment je m'y prenais avec mes amis, Jean-Marie et Eugène, pour faire parler les Arabes du passé. C'était en 58,
non, on
en Algérie.
Temps, on n'a pas le temps.
Bon,
ce
sera pour une autre fois.
Merci,
bonne émission.
Merci, Albert Algout.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Est-ce qu'il y a dans cet arabe du futur des histoires, des anecdotes que vous avez totalement effacées pour vous concentrer justement sur l'éducation de votre papa, de votre maman, votre vision de cette éducation et que ça soit l'intrigue principale sans se perdre dans des sous-intrigues?
Ah oui, bien sûr, oui. Bah, par exemple, j'ai été à l'école en Syrie pendant 5 ans. J'aurais pu faire 10 BD sur les histoires des élèves entre eux. Il se passait tellement de trucs, il y avait tellement de... Je me concentrais sur les anecdotes qui permettaient en effet de rester dans le fil de l'histoire. Et c'est surtout j'étais surtout obligé de supprimer des choses que d'en rajouter.
Mais alors comment se souvenir de tous ces détails?
Mais ils sont présents dans ma tête, je sais pas comment.
Ça c'est incroyable.
Vous avez rien noté?
C'est la mémoire de rien.
Non, j'ai rien noté.
Il y avait pas un journal intime, il y avait
non,
pas de...
Mais je pense que tout le monde a...
Vous faisiez déjà des dessins,
oui,
gamin.
Alors je crois que peut-être aussi une des chances que j'ai eues, c'est que ma mère a pris beaucoup de photos et a fait des films Super 8 et que j'ai vu toute mon enfance. Et donc ça a maintenu sans doute les souvenirs vivaces.
Mais... Parce que tout est tellement précis. Justement, l'histoire des odeurs, c'est pas quelque chose que...
Non, mais c'est vrai que le sens, l'odorat, c'est très important pour l'être humain. C'est très souvent qu'une odeur nous rappelle quelque chose.
Oui, mais on peut l'oublier avec le temps. C'est-à-dire, là, si vous vous retrouvez dans des pièces où il y a des parfums qui se mélangent, vous tombez amoureux de certaines, même de méchantes, mais en l'imaginant sous sa burqa, vous dites, non, mais elle doit être comme ça. Et puis vous l'imaginez en différentes tenues, d'ailleurs, comment elle serait si elle était en jean, en robe,
et ainsi de suite. Si je me mariais avec elle en France.
C'est ça.
Non, mais on ne peut pas empêcher les fantasmes, surtout à cet âge-là, Non, c'est vrai que c'est très l'aspect animal et de l'être humain était très important pour moi dans l'histoire de l'arabe du futur. C'est les odeurs, les goûts, les couleurs, etc. C'est pas que des faits et des paroles. C'est aussi comment on essaie de s'en sortir quand on est une petite bête.
Et c'est aussi une scolarité un peu triste que vous racontez. Au-delà de l'enseignement, c'est les relations avec les camarades, que ce soit en Syrie, où vous étiez complètement, vous étiez le bouc émissaire, ou en France même, où vous étiez assez exclu finalement de tous les groupes de copains.
Oui, pardon, un exemple. Vous êtes content d'avoir des cours de rattrapage, de religion avec la maîtresse, pour ne pas vous faire frapper à la récré.
Oui, puis c'était aussi parce que j'étais un peu amoureux de la maîtresse, parce qu'elle était hyper belle et elle sentait très très bon. Allez. Et donc elle s'approchait toujours très proche de moi, puis elle me lisait le Coran, je comprenais absolument rien, mais j'aimais être avec elle, ça m'évitait d'avoir à me bagarrer avec les mecs. J'étais un peu, mais c'était parce que j'étais pas très costaud.
Vous vous rendez compte qu'il y a non, j'allais dire un intégriste qui nous écoute, à mon avis, lui, ça fait longtemps qu'il n'écoute plus France Inter, quelqu'un qui peut être choqué de vous entendre dire « je ne comprends rien au Coran, mais le corps de cette femme qui s'approchait de moi pour m'éduquer en termes de religion, oui, éveiller une espèce de fantasme ».
Oui, mais c'était comme ça. C'est vrai que comme j'avais
été rapproché fantasme et Coran, c'est pas très.
Ben non, ben c'était la vie qui a choisi de faire ça.
Puis il y a une dimension sexuelle aussi charnelle dans les textes religieux, quels qu'ils soient.
Alors moi, c'est vrai que le Coran, j'ai eu des cours pour l'apprendre en Syrie. C'était une langue complètement différente de celle qu'on parlait. Donc je n'ai jamais compris de quoi il était question.
C'est pas le même arabe, ouais.
Et pour le coup, il y a une chose qu'on oublie souvent de dire. Mais
il y en a plein qui n'ont pas compris ce qui
mais
était
il y a une chose qu'on oublie souvent de dire et que j'ai vraiment ressenti quand j'étais enfant, c'est que c'est un texte qui est incroyablement puissant par les sonorités et la poésie. Et je crois que c'est une de ces forces, c'est que quand on ne comprend pas, c'est un texte qui est tellement beau. En fait, rien que de l'écouter, on est
hypnotique.
On se dit peut-être un jour on va comprendre de quoi il est question, etc. Et c'est vrai qu'on ne peut qu'être fasciné par cette chose.
Donc, pour aller plus loin, c'est pour ça qu'il y a tant d'interprétations qui diffèrent.
Oui, c'est vrai que c'est très compliqué de comprendre exactement cette langue. Moi, je ne l'ai jamais entendu parler en Syrie par quiconque. Pour moi, mes copains, ils ne comprenaient pas ce qu'il y avait dans le livre.
Non, mais je veux dire, même sourate peut être expliqué différemment par deux imams différents.
Il y a plein de traductions différentes.
Ouais. D'où
c'est un mystère pour moi. Je ne sais pas comment on peut arriver à un moment à le comprendre parfaitement.
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la maîtresse, c'est complexe parce que elle n'y croit pas trop. À certains moments, on se demande si elle y croit vraiment. Non, elle rêve de Paris aussi. Elle est très religieuse, mais en même temps...
Elle était chrétienne.
Et en même temps, elle rêve d'ailleurs.
Oui, donc, elle ne comprenait pas
c'est
pourquoi...
C'est pas une fanatique du tout.
Non, elle ne comprenait pas pourquoi mes parents habitaient dans ce village. Voilà. Ils me disaient, tu devrais habiter en France, c'est quand même mieux.
Paris, elle vient à Paris.
Paris, ah là là. Elle était complètement... elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là.
C'est très joli tout ça, c'est vraiment très bien.
Puis il y a quelques nuits qui ne sont pas de tout repos aussi. Le moindre bruit, il y a des délires, vous imaginez des monstres, des choses qui se passent à côté.
Oui, Frelon, oui, c'est marrant, parce qu'on parlait de Hergé tout à l'heure. C'est vrai que les séquences de rêve dans Tintin m'avaient fortement marqué quand j'étais enfant. Et notamment parce que je faisais des rêves aussi assez marquants. Et dans l'Arabe du futur, c'était l'occasion de raconter ces rêves. C'est souvent un... Le récit se passe aussi à travers le rêve et...
Ça marche bien, ça se lit extrêmement vite. Ouais. Au début, quand j'ai vu arriver le pavé, je me suis dit, waouh, 280, c'est écrit petit.
En plus, c'est cousu.
C'est chargé. Et en fait, non, c'est passionnant.
Ouais. C'est ça passionnant. Parce que c'est passionnant.
Oui,
c'est
on peut pas s'arrêter, voilà. On peut pas s'arrêter. On a envie de savoir ce qui se passe après. Et je suis comme Leïla, j'ai envie de lire le 5.
Bah oui. Il y a des BD qui vous tombent des yeux et celle-là, c'est, on a beaucoup de mal à lâcher.
C'est une réussite. Voici Jérémy Crémier.
Bon, ça vous énerve pas, vous, les gens qui s'énervent pour rien?
Voilà, bah, moi j'aimerais pousser une gueulante, déjà pour que revienne cette expression, pousser une gueulante, et ensuite parce que cette semaine, j'ai connu l'enfer.
C'est pas possible.
Si. Bon, comme j'ai l'impression que ça n'intéresse personne, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Jérémy Crédville est un jeune trentenaire dans le vent, un vent du nord qui l'ébouriffe. Élevé à la dure à coups de ceinture et d'endive, il décide, à 15 ans, de quitter le domicile familial pour enfin aller à l'école. Arrivé à Paris en 2016, il se lance dans l'humour comme on lance un caillou dans la mare. Parfois ça ricoche, parfois ça fait plouf. La semaine dernière, il a connu l'enfer et il va nous le raconter après 3 secondes de silence radiophonique.
Non, c'est long.
J'ai essayé de prendre le métro à Paris avec une poussette. Voilà, c'est ma galère. C'est une galère sans nom, comme Nagui, de prendre le métro avec une poussette. Paris, métro, poussette, en 3 briques à pyramide, tu peux faire deviner suicide avec ces mots-là. J'embrasse au passage Pépita qui nous écoute certainement.
Ah oui, les magasins
Mironton ou Barjabul, évidemment. Eh ben, c'est plus facile de répondre à Mironton ou Barjabul que d'avoir une poussette dans le métro. Parce qu'il y a des stations, t'as l'impression que c'est le musée de l'escalier. C'est hallucinant, comme dirait Lucchini. Alors... J'ai eu la chance, moi, au final, de m'en sortir, parce qu'il y a un mec qui m'a aidé à descendre dans la poussette, c'était donc, vous l'aurez compris, un touriste.
À descendre dans la poussette ou avec la poussette?
Non, il a descendu la poussette.
Ah, d'accord, parce que t'as dit dans la poussette.
J'ai dit dans la poussette.
Ouais, toi, dans une poussette, je peux pas l'imaginer.
Ah bah écoute, des fois
non,
ça m'arrive.
Non, j'ai pas envie.
Non, mais là, je me suis dit un truc, quand t'as une poussette, c'est chiant. Enfin, c'est surtout le truc qui gesticule dans la poussette qui est chiant, surtout si c'est moi. Mais quand t'es en fauteuil roulant à Paris, tu fais comment? Parce que c'est vraiment un truc fou. Paris, ville lumière, bah, je peux vous dire que ceux qui ont créé les lignes de métro à Paris l'ont pas à tous les étages, la lumière. À moins que ça ait été fait par des mecs fans de parcours.
Pour aller à un endroit, on va faire une sorte de labyrinthe avec plein de marches, ça va être super.
Ah, t'es ingénieur, RATP.
On fera répéter 2 fois le nom des stations, mais pas tout à fait de la même façon.
RATP.
On mettra un autocollant avec un lapin rose en jean qui vous dira de ne pas mettre ses doigts sur les portes. Attends, RATP. Et surtout, on mettra pas d'ascenseur, jamais. Je suis resté coincé dans un ascenseur quand j'étais petit.
Voilà, c'est la seule explication logique. À Lille, on a 2 lignes de métro. Hein. Je vois bien les Parisiens me dire « Oh, bah, ça fait une de trop ». N'empêche qu'à Lille, tout le métro et tramway est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et je peux vous dire qu'à Lille, mais c'est vrai.
Dans Paris, tout le temps.
Ouais, non, mais à Lille, beaucoup de personnes ont une mobilité réduite suite à la quasi-gratuité de la bière. À Lyon, pareil. Les 4 lignes de métro sont accessibles à tous. Il existe donc des frotteurs en fauteuil. C'est pas ma bite, c'est mon accoudoir. À Paris, il y a 9 stations sur 303 qui sont accessibles aux personnes handicapées. Elles sont toutes sur la même ligne. La ligne 14. À croire que tous les tétraplégiques de Paris sont entre Olympiade et Saint-Lazare. Mais c'est vrai. Même à la station Invalide, il n'y a pas d'ascenseur. Il y a pourtant un indice dans le nom de la station. C'est quand même fou, t'imagines? Philippe Croizon, il n'a pas de bras, pas de jambes. Il peut traverser la Manche à la nage, mais il ne peut pas faire République Bastille en métro. Voilà. À Paris, on ne respecte pas les handicapés. On devrait pouvoir dire les handicapés. C'est des personnes, pas des haricots verts. Mais non. On veut pas de liaison avec les handicapés. Moi, je suis pour l'égalité et les handicapés ont aussi le droit d'être entassés sur les quais bondés de la ligne 13. Les handicapés aussi ont le droit de vivre des « en raison d'un accident grave de voyageurs ». Faut arrêter d'être égoïste. Il faut partager nos suicidés avec les handicapés. Il faut qu'ils ressentent le malheur des gens valides coincés pendant 11 stations avec un accordéoniste. Ouais. Et quel bonheur cela doit être pour une personne en fauteuil d'avoir la tête dans le cul, mais celui d'un autre dans le métro. Après, moi, j'ai essayé d'agir, mais c'est compliqué. J'ai organisé une marche pour les handicapés. Personne n'est venu. Et puis, c'est dans la loi. C'est dans la loi depuis 2005 que ça doit être accessible. Encore un an et on fêtera les 15 ans du non-respect de la loi. 15 ans sans respecter la loi et sans se faire choper, vous verrez qu'on va s'appeler... Enfin, la loi va s'appeler la loi Balkany, j'en suis sûr. Moi, je pense qu'avec un petit effort, on pourrait tendre vers l'accessibilité des transports à tous et ainsi permettre aux gens en fauteuil roulant de joindre les deux bouts. Merci.
Merci, Jérémy Cazier.
Vous êtes bien sur Inter et dans la bande originale, vous serez encore mieux après avoir entendu Parcells avec ce titre Be Myself. C'était Parcells avec Be Myself sur France Inter. Nous sommes avec Riad Satouf jusqu'à midi et demi pour l'Arabe du Futur 4. Tout de suite, Riad, la bande originale de votre vie et dans votre enfance, vous écoutiez Abba dans les années fin des années 70. C'est maman qui écoutait Abba.
Ouais, mon père aussi, mais c'est notamment cette chanson, je l'ai souvent
entendue. Bah oui, il peut pas écouter Money.
Car l'obsession du pognon, c'est quelqu'un qui raconte qu'il rêve de gagner du pognon, de gagner des millions à Monaco. C'est tout à fait mon père.
Et dans ces années-là, 78, c'est l'année de votre naissance. Alors, grâce à l'Arabe du Futur, on connaît un peu maintenant le périple de votre enfance, la Libye, l'Arabie Saoudite, la Bretagne aussi. Il est beaucoup question de la Bretagne, la terre maternelle.
Mais oui, oui. Et c'est vrai que du côté de ma mère, c'était une famille de pêcheurs et un de nos ancêtres était corsaire. Et donc ma grand-mère m'en parlait beaucoup parce qu'elle avait connu sa petite fille. Donc c'était des hommes très rudes qui vivaient de manière très... Ils étaient quasiment illettrés également. Et il y avait des deux côtés, on était reliés à une ruralité très forte.
C'est votre grand-mère qui vous envoyait des BD, c'est ça ?
Oui, ma grand-mère française, qui adorait Nagui aussi. Elle était méga fan de Nagui.
Et qui vous a encouragé, qui vous a encouragé dès vos premiers dessins,
bien
en fait.
Bien sûr, oui. Elle pensait déjà que j'étais un génie intersidéral tout de suite. J'étais bien meilleur que Picasso, etc. Et c'est vrai que quand ma mère disait du mal un peu du Moyen-Orient, ou de sa vie, ou des Arabes en général, ça lui arrivait. Et ma mère me disait, mais regarde Nagui à la télé, il est beau, il est drôle, il me rappelle toi, tu serais comme lui, c'est un gentil arabe, tu vois. Lui, c'est un gentil, tu vois. Il serait comme toi, tu serais comme lui un jour, moi je l'adore. Elle avait essayé de s'inscrire à des émissions pour être dans le public.
Nagui avait refusé.
Et à chaque fois, ça me fait un effet.
Quand pas de breton.
Interdit aux bretons. Mais non, c'est vrai que elle était très, très présente. Elle espérait vraiment que je devienne quelqu'un.
C'est important, ça veut dire qu'il y avait un représentant. Et c'est ce qui, c'est mon petit moment militant, mais ce qui est important aussi dans la télévision, c'est que la télévision, elle entre dans les maisons de chacun, et à travers ça, on peut se projeter, on peut s'imaginer, soit pour ses enfants, ses petits-enfants, ou soit, Riad, vous auriez pu vous imaginer présentateur télé, parce que vous avez vu Nagui à la télé, et c'est pas anodin, en fait.
Sauf que comme Riad, je ne parle pas arabe, donc, je suis pas un arabe.
Tout ce qu'elle savait, c'était qu'il s'appelait Nagui, et qu'il était plus ou moins égyptien. C'est ça. Donc pour lui, c'était un arabe, il venait de quelque part de là-bas, et donc c'était juste
en 1998. On est d'accord, vous avez abandonné l'idée de chanter. Hein.
J'espère être révélé par quelqu'un.
Elle chante bien pourtant.
Ouais, je chante bien.
On y va.
À Nirvana, c'est génial. Non, c'est super, ouais.
Ça vous renvoie quelles images? Vous êtes où à ce moment-là?
Eh bien, figurez-vous que c'était à Rennes. Et alors, un jour, vous savez que j'ai vu Nirvana en concert.
À Rennes?
À Rennes. En fait, leur carrière a commencé à Rennes. Elle a commencé avec Bleach. Non, mais c'est un vrai truc. Alors là, que les gens témoignent. Non. Un de leurs premiers concerts en Europe, c'était pour Bleach à l'Ubu. Et en fait, ils sont revenus à Rennes. Parce que c'est là que tout avait commencé pour eux. Ils ont fait un immense concert à la salle Omnisport où j'y étais. Et à midi, j'étais allé avec un copain avant le concert. On est entré dans la salle et ils faisaient leurs essais sons.
La balance, ouais.
La balance. Et Kurt Cobain lui-même nous a virés de la salle.
C'est beau.
Il a dit « Ah, sorry, security, please ». Et il y avait deux blaireaux qui étaient là en train de les regarder. Et un mec est venu « Bonjour, s'il vous plaît, pour sortir, s'il vous plaît ». Donc, en fait, voilà, j'ai été viré par Kurt Cobain un jour. Mais après, il s'est suicidé 15 jours plus tard. Donc,
c'est à cause de vous. Et on est en 98, vous êtes étudiant au Gobelin. Je crois que vous pouvez pas finir la scolarité, en fait.
Non, c'est vrai, c'était mon grand-père qui me payait la scolarité, donc il est décédé. Donc ensuite, après ça, j'ai passé des concours d'école publique. Il y avait les Beaux-Arts de Rennes et les Gobelins à Paris en cinéma d'animation. Et j'ai été pris à Paris. C'est comme ça que je suis venu à Paris.
Vous avez été repéré dans un concours de BD, je crois, c'est
oui,
ça?
Oui, j'avais un ego disproportionné déjà à l'époque. J'étais persuadé qu'un éditeur allait arriver et me dire « Vous êtes le plus jeune auteur de BD de tous les temps, je vous signe tout de suite ».
C'est normal.
Je pensais que ça allait arriver.
Votre grand-mère vous avait prévu ça en même temps.
Donc je participais à des concours, j'envoyais tout le temps des pages toutes les semaines à tous les éditeurs, je recevais des lettres type de refus, mais je me disais « Mais c'est parce qu'ils sont nuls, ils se rendent pas compte que je suis génial ». Enfin, j'étais complètement obsédé à l'idée de faire des livres. J'étais prêt à attendre 20 ans.
Avant gloire à ceux qui ont refusé.
en 2000, c'est comme toujours. Hein, ça, c'est,
ah ouais, ça, c'est
essentiel.
Génial, j'adore ça.
Essentiel. En 2006.
J'aime regarder les mecs qui marchent sur la plage. Ah, c'est Pascal Brutal, ça.
Ouais.
Ça, c'est bien sûr.
Donc là, c'est la drogue, évidemment. J'aime regarder les mecs, l'autre version de J'aime regarder les filles de Coutin qui datait des années 80. Ça, c'est pour vous, c'est Pascal Brutal, cette.
Oui, c'est un personnage que j'ai créé dans Fluide Glacial. Et c'est d'ailleurs avec Albert que, quand Albert était rédacteur en chef de Fluide Glacial, que les premières histoires ont paru dans.
Et ils voulaient pas de Riyad au départ, hein, les gens, oui, de Fluide Glacial.
Non,
il fallait que je me batte pendant un an et demi.
Pourquoi il y avait trop d'ombre dans le dessin?
Trop non, parce qu'ils avaient un goût de chiottes et qu'ils étaient obscurantistes. Je ne parle pas des plus vieux, des mecs comme Binet et Dika, qui sont des types formidables, ou des très jeunes, mais les mecs qui avaient 40-50 balais, ils n'avaient rien compris à la BD. Ils ne voulaient pas de filles, ils ne voulaient pas de Riyad, ils ne voulaient pas se renouveler. Quoi.
Oui, pas de
je
filles,
le dis aujourd'hui, avec amitié.
C'est Guillaume et les garçons à table, ils ne voulaient pas de filles, ils ne voulaient pas de Riyad.
Oui, mais non, ils ne voulaient pas des talents, ils ne voulaient pas changer. Finalement, ça s'est fait un petit peu. Puis après, je suis parti.
Et Pascal Brutal, c'est ce héros qu'on aime tant. Et dans Pascal Brutal, vous avez une vision étonnante du monde arabe.
Oui, en fait, Pascal Brutal, c'était une bande dessinée de science-fiction un peu, entre guillemets, comique et apocalyptique. C'est-à-dire, j'imaginais le futur de la France qui, peu à peu, se délitait. C'est une sorte de Mad Max comique. Alain Madelin était président, etc.
C'est drôle.
Voilà. Et en fait, comme c'était une vision assez sombre, mais bon, tragicomique, marrante, quoi, j'ai imaginé le monde arabe dans cette bande dessinée, pour le coup, était complètement sorti du
avant-gardiste,
ultra bobo, bio, uni, avec un peuple de surfeurs ultra décontractés. C'était l'inverse, voilà, un truc complètement positif.
C'est quand même grâce à vous qu'on parle encore d'Alain Madelin.
Une manière de se moquer du monde arabe actuel, évidemment.
C'est vrai que je m'étais donné aussi le rôle du président du monde arabe dans ce livre.
Mais juste une question. Tu m'as expliqué une fois pourquoi tu ne peux plus faire Pascal Brutal. Parce que la réalité dépasse.
Non, franchement, c'est pire aujourd'hui que ce que j'imaginais dans Pascal Brutal. Quand j'ai commencé à faire Pascal Brutal, c'était en 2003-2004. Il n'y avait pas Internet. Il y avait Internet beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas des trucs. Et en fait, souvent, je repense à Pascal Brutal. Je me dis peut-être que je pourrais refaire des histoires. Je n'arrive pas à imaginer pire que ce qu'on a aujourd'hui. Souvent, la réalité est souvent pire. Par exemple, Donald Trump, c'est pas pour dire du mal de Donald Trump encore une fois, mais j'aurais pas osé le mettre dans ma BD, je trouvais que c'était trop caricatural. J'aurais choisi un autre mec, mais un blond comme ça, qui fait des émissions, ça ressemble trop à Retour vers le futur 2, avec Biff et tout. C'était trop... Et le réel est beaucoup plus challengeant, en fait, que l'imagination dans ces...
Ça va encore plus loin, ouais. En 2016... Angèle. Non, je crois pas. Je crois pas. Non, Riyad.
C'est toi, Riyad, qui fait ça.
Non, Riyad, non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça. La loi de Murphy. La loi de l'emmerdement maximum, mais ramenée avec le sourire, la musique.
La voix d'Angèle.
Et l'humour d'Angèle. Ouais. Ouais, mais tout l'album est super bien.
Ouais, j'adore cette chanteuse. Mais elle me rappelle un petit peu Esther dans Les Cahiers d'Esther.
C'est pour ça.
C'est une fille populaire, mais en même temps dit des gros mots et des fois dit des trucs un peu cradoc. Enfin, c'est assez marrant. J'aime bien ce personnage. Et les mélodies très mélancoliques, comme ça. Il y a une mélancolie et de l'humour. J'adore ce mélange.
Comment va Esther ?
Elle va très très bien là. Elle est en quatrième.
Ouais.
Et elle est vraiment ado là en ce moment. J'ai un peu de mal parce qu'elle me raconte des trucs très très mous quoi.
Ah.
Elle est le gars, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit Et là, je suis obligé de me concentrer quand même. Attends, qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as dit quoi? Il t'a dit du mal? Il a parlé de toi? Non, en fait, il est cool en fait. Alors voilà, je suis obligé
pour
de.
Les dialogues,
alors j'essaie de remettre en forme, de la présenter un peu comme elle glisse dans l'adolescence. Là, elle a des boutons.
Il faut préciser qu'elle existe vraiment. Elle vit avec ses deux parents.
Oui, tout à fait. Elle touche des droits, Nagui.
Elle a inspiré tous vos cahiers. C'est des planches que vous faites de façon hebdomadaire.
Oui,
il a devancé la question là.
Non, on en avait parlé la dernière fois.
Mais c'est vrai que non, elle me raconte des histoires sur sa vie et j'en fais des pages de bande dessinée. Alors je change un petit peu cette histoire. C'est publié toutes les semaines dans l'Obs, c'est réuni en album. Je veux faire un album par an jusqu'à ses 18 ans. Donc là, elle entre dans l'adolescence et j'avoue que elle a des boutons et tout. Elle est moins volubile qu'avant, quoi.
Ouais, ouais.
Alors faut que je le mette un peu en scène. Voilà, elle est souvent dans les vapes et elle me raconte des trucs de plus en plus surréalistes. C'est assez marrant.
Jean-Christophe Augier nous a rejoint. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour à tous.
Journaliste spécialiste de bande dessinée de France Info. Vous présentez BD Bande Dessinée, donc chaque dimanche à 10h56, 16h26, 23h54 sur France Info. C'est très précis.
Chaque fois en direct.
Ce que j'aime, c'est que eux, ils sont à l'heure, en tout cas. Nous, on pourrait pas donner des horaires aussi précises de ce qui se passe dans l'émission. Riyad Sattouf est un phénomène.
Ah bah oui, la preuve en est tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que ça marche formidablement bien à peu près avec tous les publics, qu'ils soient adultes, qu'ils soient jeunes. Bah, je sais pas chez vous, mais chez moi, la mère de famille, les enfants, tout le monde veut arracher le Riyad Sattouf des mains, et notamment l'Arabe du futur, oui. Alors, pourquoi ça marche? Je ne sais pas vraiment. D'autant plus que,
Lui non plus, hein.
Mais non, mais c'est paradoxal.
Non, parce que c'est vraiment ultra bien, en fait. C'est ultra bien.
Il vaut mieux pas savoir non, pourquoi ça marche.
Mais on peut chercher quand même. On peut chercher quand même. C'est-à-dire que vous avez évoqué quelques pistes, et notamment Albert Algout a évoqué le fait que on était dans la ligne claire. C'est-à-dire quelque chose de très accessible.
Pas seulement.
D'innocent. À l'approche, comme avec un dessin agréable, presque du Tintin. Et puis finalement, on se fait piéger. En fait, il est malin, c'est un arnaqueur. Il vous fait passer des choses très dures, parce que franchement, il y a difficile d'avoir de l'empathie pour tout le monde dans ce livre.
Hein.
C'est en tout cas lui, la manière dont il rend compte de la chose, il a peu de.
On est clairement à ses côtés quand même, c'est-à-dire que.
Eh ben voilà, on est à ses côtés.
On vit la situation par son prisme.
On est à ses côtés, c'est-à-dire qu'on regarde le monde avec des yeux d'enfant, et donc ça, tout d'un coup, ça dédouane d'une certaine rudesse, je dirais, des choses. Et deuxièmement, il a peut-être une capacité que nous n'avons pas à être à l'extérieur en permanence, à regarder le monde comme nous ne savons plus le faire. Est-ce que c'est parce qu'il a été justement le français là-bas et l'arabe ici, c'est-à-dire une sorte de décalage permanent qui fait qu'il regarde toujours les choses sans être tout à fait avec les autres. Je ne sais pas, mais à mon avis,
c'est à dire qu'avoir regardé autant avec méfiance et rester bienveillant, c'est fort, parce que chaque fois, vous étiez mécaniquement méfiant de ce qui allait se passer, de la manière dont on allait vous traiter.
Oui, bon, peut-être, mais c'est vrai que l'observation des autres aussi est quelque chose d'automatique quand on est un petit peu mis à l'écart. Voilà, on imagine des systèmes. Moi, je me rappelle au collège, comme je rêvais de sortir avec des filles somptueuses, c'est vrai que j'étais inexistant pour elles, et ben j'observais le système qui faisait que les mecs beaux étaient toujours les mecs qui avaient du succès. Je me disais, ah bah eux, ils vont sortir ensemble à un moment, c'est sûr. Enfin, j'échafaudais des théories
apparemment, le
dé... Deux doigts de devenir un psychopathe, quoi.
Franchement, j'étais pas loin d'un psychopathe. Non, mais c'est ce que je montre dans le...
Mais vos dessins servaient à draguer aussi.
Bah, ils m'ont servi à draguer très peu de temps. En fait, j'ai essayé un peu, ça a presque marché. Puis en fait, une fille m'avait demandé de lui faire un superbe dessin.
Oui, ce qu'elle
avait fait un dessin pour la faire rigoler, elle trouvait génial. Et en fait, ma mère me l'a demandé et j'ai préféré le donner à ma mère. Et après ce moment-là, la fille m'a totalement méprisé.
Et fini, là, vous êtes tombé dans le classement.
Voilà, j'étais mec le plus moche de la classe. Je suis passé du plus beau au plus moche.
Vous pouvez même pas manger à la cantine avec les filles, ce que vous faisiez avant. Ce qui
mais parfois, la fille qu'on croit la plus belle, vous la dessinez, c'est terrible, elle a les dents de
elle
traviole.
Et ça, c'est Persepolis.
Alors
c'est
que les mecs sont fous d'elle, ouais. elle est pas très
C'est souvent que les beaux sont moches, quand même.
Non, mais c'est la même chose.
Ça nous rassure, en tout cas.
Dans Persepolis de Marjane Satrapi, quand elle voit, elle tombe amoureuse. Elle le dessine comme le petit prince, il est merveilleux. Et puis quand elle est plus amoureuse de lui, elle le dessine. Il est plein de bubons. Il est. Non, mais c'est vrai.
C'est comme dans la vie. C'est comme dans la vie. Quand on aime quelqu'un, on ne voit aucun défaut. Et quand on commence à avoir de travers, on ne voit que ses défauts. Pour en revenir à vous, Jean-Christophe, et au monde de la bande dessinée, qui achète les bandes dessinées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a le profil, que ce soit en termes d'âge ou de
d'éducation? Il n'y a plus un profil type puisque ça s'est tribalisé. Vous avez ceux qui achètent les mangas, vous avez ceux qui achètent les romans graphiques, comme on peut le dire, et d'ailleurs on pourrait classer Riyad Satouf dans l'Arabe du futur dans les romans graphiques, il y a ceux qui vont acheter de la BD comique, voilà. Et puis, il y a des gens qui arrivent à fédérer. Et on y revient à l'Arabe du futur, et c'est bien pour ça que c'est un succès phénoménal. Je ne sais pas quels sont les chiffres aujourd'hui, mais
vous étiez
22 traductions sur tous les albums. Il y a plus d'un million et demi, c'est ça, de volumes vendus à travers le monde.
Ben je crois, oui, non, ça marche très
mais
bien.
Mais surtout, le truc le plus génial qui soit arrivé, c'est que l'Arabe du futur 4 en tête des ventes, vous avez mis dehors Zemmour. C'est génial. C'est la plus belle réponse que l'on puisse faire.
Est-ce que vous lui avez envoyé?
Non.
Tu devrais.
Mais c'est drôle parce que j'ai pas lu son livre et mais j'ai suivi la polémique.
Mais t'as un prénom qui fait honte à la France, hein.
C'est vrai. En fait, quand je l'ai entendu en interview.
Voilà, on est trois et border.
Non, mais ce qui est amusant, c'est qu'il me rappelle par certains aspects, il me rappelle mon père, en fait. Ouais. Si moi je m'appelle Riyad et pas Jean-Luc ou Albert, c'est parce que mon père ne voulait pas que j'aie un prénom autre qu'un prénom arabe parce que j'étais syrien. Hors de question de vivre sa vie en s'appelant Jean-Luc. C'est des visions très nationalistes. Ultra fermé un peu
dans sa voix.
Oui, et puis qui sont incompatibles avec l'ouverture du monde qui est en cours aujourd'hui.
Quoi. Aujourd'hui, le prénom, ça ne veut plus rien dire. Je me suis moi-même mordu en demandant. Ma fille un jour me dit, peu importe le prénom, mais enfin voilà, j'ai joué avec et elle me sort un prénom et le prénom que je ne connaissais absolument pas. Et je dis, mais elle vient d'où? Et elle me répond, de l'école.
Oui,
et là, je me suis senti mais tellement con sur ce coup-là.
C'est super impressionnant. Quand je fais en librairie et que je fais des dédicaces à des enfants, ils ont des prénoms incroyables qui n'ont même plus Isoé, Aliora, ou je sais pas quoi. Des noms qui, on sait même pas de quelle heure.
Mais oui, mais j'ai même croisé un Jean un jour. Un truc de dingue.
À chaque fois, je suis obligé de leur demander de déplaire parce que c'est hyper.
Moi, je connais un Daniel.
Voilà, mais ça, on parle d'une autre génération. On parle d'une autre génération. Est-ce que un succès de bande dessinée, ça vend plus qu'un prix Goncourt?
Oh ben oui, en l'occurrence, c'est un vrai succès de bande dessinée aujourd'hui peut effectivement faire des chiffres phénoménaux. On va même aller un peu plus loin pour dire que c'est la bande dessinée qui tire un peu le marché du livre. On a de vrais grands succès. L'Arabe du futur est en tête, mais on a des petites surprises. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de l'américaine Emile Ferris, formidable, qui tout d'un coup, hop, ils en sont déjà à plus de 50 000, alors que c'est chez Monsieur Toussaint Louverture, un tout petit éditeur. Il y a donc des phénomènes, il y a du bouche à oreille. Ce que vous faites là est très important pour qu'on sache que tout ça existe.
Alors justement, pourquoi il y a si peu d'impact médiatique, on va dire, ou d'émissions consacrées à la bande dessinée, alors qu'en termes de vente, c'est colossal?
Je vais vous dire un truc. Je pense qu'il y en a de plus en plus. France Inter fait de plus en plus pour la bande dessinée. Ouais. Votre amie Laetitia Gaillet, qui fait les flashs, parle beaucoup de bande dessinée sur France Inter. Vous avez également dans les émissions,
Votre ami... reposer sur elle. Hein,
votre ami de Boomerang en parle de plus en plus. Votre ami de Pop-Up-Up en parle de plus en plus. Donc, effectivement,
il y a des amis, c'est des collègues, monsieur. Faut bien se barrer. On ne peut pas les blairer.
Enfin, surtout donner leur nom. Antoine Bécaud et Augustin Trapenard.
J'attends. Il y a même des faisons, excusez-moi, de l'autopromo pour vous, puisqu'il y a 3 bandes dessinées France Inter qui sont formidables en ce début de rentrée. Vous avez L'Âge d'or de Roxane Morey et Pedroza, qui est un formidable album. Vous avez également l'album de Philippe Collin, encore un gars de la maison, qui Le Voyage de Marcel Grob, qui est formidable en plus et qui est une bande dessinée France Inter. Et vous savez même Thomas Legrand, qui nous fait La 5ème République en BD.
C'est honteux,
et c'est
honteux,
une bonne bande dessinée. Non mais on parle de plus en plus de bande dessinée dans les médias, j'en ai même entendu aux 13h de France 2.
Et il y en a sur France Info avec vous.
Moi, je suis en Goumoisine, alors je suis tombée dedans quand j'étais petite, forcément.
Jean-Christophe Augier, merci Jean-Christophe d'être venu avec votre passion. Tanguy Pastureau, une étude américaine incrimine les seniors.
Oui, je sais que m'attaquer aux seniors, c'est risqué, parce qu'en général, ici, le les trois quarts de notre public, hein, en studio, bon là, ils sont 2,5, mais généralement, il y a du monde, et bah, font partie de cette catégorie. Ils nous regardent en se disant, foutre Dieu, mais quand vont-ils inviter Franck Michael? Mais tant pis, le sujet est grave. Il est prouvé que ce sont en majorité les seniors qui propagent les fake news sur Internet.
C'est dingue ça, on en parle après les infos de midi. Bonjour, la bande originale, c'est la suite, c'est reparti avec la rockstar de la bande dessinée, l'homme aux millions d'albums. Il était venu nous voir pour l'Arabe du Futur 4, quatrième du nom, Riyad Sattouf. L'Arabe du Futur 4, un énorme succès, et on a déjà envie de découvrir l'Arabe du Futur 5. Il est déjà prévu, il est déjà dans les plannings?
Oui, je suis en train de l'écrire, oui, bien sûr. Oui, parce que maintenant, avec la fin du 4, comme il y a un secret, les lecteurs, ils viennent me voir, ils m'enguirlandent presque.
Non, mais il y a une accroche. Il y a une accroche digne des films américains ou des téléfilms de fiction où on se dit, je vais revenir la semaine prochaine, tel soir, voilà, sur telle chaîne pour savoir ce qui va se passer.
Et l'accroche, là, elle est terrible.
Elle est dingue.
Elle est terrible.
Faut pas c'est le quoi? Dire, faut pas, non.
Ah, non, non. Mais il voulait le dire au Nagui tout à l'heure, mais on lui a dit non.
J'en ai marre. J'en ai marre. Il travaille toujours à... sur Radio Courtoisie, ton copain là pour me faire...
Ah, tu veux une place?
Ah, bah oui, c'est
sans problème. Ah, très bien. Ah, je vais te pistonner, tu vas être accueilli.
Bien, très bien, voici ton Guy Passion. Tanguy, les fake news nous pourrissent la vie.
Oui, avant tout était plus simple. Il y avait 3-4 trucs dont on n'était pas sûr. L'âge d'Ariel Dombal, l'équilibre psychique d'Ariel Dombal, la cohérence de la carrière d'Ariel Dombal. Mais bon, à part si Ariel Dombal n'avait pas existé, qu'elle nous avait laissé seuls avec Jean-Pierre Bacri et Isabelle Huppert, ce qui fait qu'on serait suicidé en se taillant les veines avec la jaquette d'un DVD des Frères Dardenne. Avant, mais tout était limpide. À la télé, Bruno Mazur nous informait et on le croyait. Même quand à la fin du JT, il disait demain c'est la Saint-Yvette. À la Saint-Yvette, on passait Kékette à la Gratounette. Parce que c'était plus ou moins ça, ces dictons. Hein. On n'était pas sur du Pierre Dac ou du Benjamin Griveaux. Enfin, de l'humour un peu bossé. Ben, on acceptait tout sans broncher. Les gens, à propos d'un fait d'actu, vous disaient c'est vrai parce que je l'ai vu à la télé. Maintenant, c'est le contraire. Parce que ça passe à la télé, on dit que c'est faux. À 4 ans, les gosses remettent en cause l'existence des pyjamasques. Ils vous disent ouais, il y en a un qui s'appelle Gluglu. Tu crois que ça passerait à la presse, ça, papa? Fake news! Mais on croit plus à rien. Moi, quand les gens, après l'un de mes moments d'anthologie scénique que les autres humoristes, eux, appellent spectacle, me demandent comment il est Nagui en vrai, et que je réponds sympa, l'an dernier, une fois, il m'a parlé, on me dit ouais, c'est ça. Hein, et je passe la soirée à dire aux gens, mais je vous jure, il est super. Et puis, quel look! Parfois, il a des chaussures entièrement cloutées, avec des pics. On dirait qu'il a enfilé le virus du sida, ou un couple de hérissons. Mais personne ne me croit. Pour le public, parce qu'on est dans les médias, on ment. Et si dans Silence ça pousse, Stéphane Marie dit qu'il faut arroser son ficus 2 fois la semaine, alors que c'est une seule, on repart sur 10 ans de « ouais, ils nous mentent, ces fils de chiens ». Et Stéphane Marie reçoit des lettres anonymes disant « on va te déflorer avec un gros cactus », ce qui n'est acceptable que si on est seul dans le désert et qu'on s'ennuie un peu. En fait, le souci, c'est que les fake news, ça correspond à ce qu'on a envie d'entendre. Si sur le net, un gilet jaune écrit « bravo, samedi on était 36 millions dans les rues, on a rasé l'Arc de Triomphe », À la place, on a mis une maison pour Éric Drouet avec la fille pour qu'il puisse regarder la chaîne RT. Et je suis gilet jaune, bah ça me plaît plus que si on me dit qu'à Melun, ils étaient 7 sur un rond-point à grailler des chips avec Dupont-Aignan sapé en poussin. La fake news, ça joue sur notre naïveté, on partage des choses insensées. Cette semaine, j'ai vu passer une info disant que Castaner réfléchissait. Enfin, je suis désolé, mais enfin, c'est gros, hein. Et une étude américaine le dit, ce sont les plus de 65 ans qui partagent le plus de fake news. On se doutait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les vieux. Hein, cette propension qu'ils ont à regarder Thalassa, cette émission lénifiante où des poissons imitent le regard d'Evangélie quand par erreur elle tombe sur l'émission de Laura Adler. Le problème des seniors, dit cette enquête, c'est qu'ils ont confiance dans ce qu'ils lisent. Parce qu'ils sont habitués aux médias crédibles. Quand le chasseur français en une écrit « Comment défoncer son neveu en 30 cartouches après l'avoir pris pour une bécasse ben », ils ne remettent pas en question l'information. C'est normal pour eux.
Alors qu'à l'inverse, les plus jeunes n'ont plus confiance dans les médias.
Ben non, prenez Flyrider, Maxime Nicole, la figure des gilets jaunes, l'un des deux derniers messieurs au monde à porter une casquette à l'envers avec le chanteur de Chaka Punk. Hein, les autres n'ont pas survécu à la fin de la carrière du groupe Limp Bizkit. Eh ben, ils ne croient rien de ce que les médias disent. Si Stade 2 annonce que Christophe Lemaître a battu son propre record aux 200 mètres, le gars déboule avec sa règle du collège et passe l'après-midi à mesurer la distance. Il a quand même remis en cause le caractère terroriste des attentats de Nice. Il dit ne croire que ce qu'il voit. Mais si Daesh doit l'appeler deux jours avant que ça pète, juste pour qu'il ait temps de prendre le train et assister à l'attentat, ça va être compliqué parce que les mecs sont désorganisés. Les trois quarts du temps, c'est un pote qui les appelle pour dire « il y a encore un con qui s'est fait sauter de notre part et il faut bricoler à la va-vite un communiqué disant que c'était un soldat du califat alors que la veille, on le connaissait moins que Nicole Belloubet. » Donc tous les gens comme Flyrider gobent de la fake news qui vient de nulle part. Parce que pour eux, dès qu'on est politique ou journaliste, on ment. Et alors proctologue, je vous raconte pas. Il faut dire que cette phrase qu'ils ont, je vous assure qu'on ne sent rien, ça va, hein. Et en même temps, pas de généralité. Les jeunes, parce que Flyrider, il a 31 ans, c'est un yeuf. Moi aussi, je peux mettre une casquette, fumer des spliffs et me péter le tibia juste pour faire croire que je fais du skate. Mais les vrais jeunes, il faut pas se leurrer, les fake news, ils les sentent. Ils font la différence entre un article crédible, exemple, Nagui, ses amours, ses envies, ses espoirs dans Gala, de quelque chose de très dirigé, comme drogue, sexe, torture de panda, scarification, la face cachée de Nagui, le nouveau bouquin de Bernard Pascuito. Bref, c'est à cause des plus de 65 ans que les fake news se propagent. Donc la seule solution est d'appeler Kim Jong-un, lui refiler nos vieux, là-bas il n'y a pas internet, ils pourront pas nuire, contre de jeunes nord-coréens et nord-coréennes, on enfermera Yann Moix au préalable dans sa chambre. C'est du win-win. On réchauffe les relations un peu tendues avec Kimi et on n'est pas là à gaspiller notre temps à expliquer à papy que non, Macron n'est pas un reptilien juif comme ils l'ont lu sur la page Facebook de worlddomination.com. Non, mais on va pas s'en sortir.
Merci, Tony Passion. La bande originale avec Riyad Satouf, ça continue jusqu'à 12h30. Riyad Satouf, un garçon sensible, sensible comme cette chanson d'Eddie de Préto.
Ah bah toi t'es le plus beau, mais t'as jamais rien trop fait. C'est facile quand on vit pas grand chose et on ose effriter les trophées. Quand on est trop bien assis à juger les travaux finis, toi t'as tout dit, t'as rien pris, mais tu parles tout comme si, puis tu prônes t'es au-dessus que tout ça c'est de la rime à deux balles et demi mots que t'as même jamais lu. Qu'à continue de cracher, t'en auras presque plus de ta salive, j'en ferai des glisses à perte de vue. Après ça t'écriras quoi? Toujours tes problèmes à régler. T'étoufferas tes gros poids que t'essaies de faire porter, que t'essaies de tout cacher de l'écran où t'envoies des PD, des TG sans même savoir l'orthographier. Je resterai insensible, je resterai insensible face à tes cris sans moi, que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand ta voix. Il y a ceux qui proposent, il y a toi qui n'ose pas, qui reste dans son coin sans jamais faire de faux pas. Plus tu critiques, plus j'encaisse bien. J'aime savoir qu'il y en a qui ne mangent pas de mon pain. Plus j'ai déjà lu que je ne passerai même pas l'hiver, que j'étais qu'un pélire ou sans dents et dans la galère. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire de moi, car je serai encore bien là quand t'auras tout dit de toi. Car je pense qu'il va falloir t'y faire, car je pense avoir bien plus pour te plaire. Car j'aime te faire couler de l'encre à t'en faire chanter, l'air qui te trottera dans la tête jusqu'à dire que t'en es. Je resterai insensible, je resterai insensible
sur moi que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies. Ça fait des BABA, des bien plus grands que toi. Ça fait un tabac qui se consume trop sans moi. Ça fait des BABA, juste du brouhaha qui, je crois, parle de moi, mais je ne m'y vois pas. Insensible, insensible. Je resterai insensible, insensible face à tes cris sans moi que t'écris de trop bas. Je resterai insensible, je resterai insensible face au caractère gras que tu miaules quand t'aboies.
L'arabe du futur 4, Riyad Satouf. La nuit est importante. Elle est très présente aussi, les nuits en tout cas. Les fantasmes, les cauchemars aussi, les frayeurs, les bruits inquiétants. De quoi parlent les grands quand nous on est dans la chambre à côté? Enfin, c'est un autre monde, j'ai l'impression, la nuit, chez vous.
Oui, puis c'est aussi la nuit, c'est aussi l'inconscient en fait. Le moment où les idées sont libres et où les symboles se font. C'est vrai que dans l'arabe du futur, c'était très important de montrer à la fois la lumière et le côté obscur des choses.
Les codes couleurs dont parlait tout à l'heure Agnès, c'est-à-dire la présence comme ça de cadres rouges de fond et presque monochrome, c'est votre patte.
Oui oui, alors c'était très important aussi parce que c'est vrai que je me suis limité et mis des contraintes au niveau des couleurs pour permettre au lecteur de ressentir le dépaysement et le déracinement du personnage.
C'est-à-dire que l'émotion aussi, c'est-à-dire que le rouge c'est la colère, la violence et
oui. Puis c'est vrai qu'en fait, dans chaque pays, je m'autorise à utiliser les couleurs du drapeau du pays. Donc en Syrie, c'est rouge et vert. En France, il y a du rouge. Et en Libye, il n'y avait que le vert. Et avec ce vocabulaire un peu limité, il faut tout exprimer, tout raconter. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on est habitué à lire une bande dessinée où toutes les couleurs sont jaunes, on s'habitue au jaune. Mmh. Et le jaune, ça a un vrai effet sur le corps. Si vous regardez du jaune, votre rythme cardiaque change. Et en fait, c'est un vrai truc. Oui. C'est un vrai truc. Et si vous regardez
c'est neurologique.
C'est neurologique. Et les couleurs sont neurologiques.
Si vous regardez une couleur, votre rythme cardiaque change.
Sur les yeux, les bâtonnets. Alors, on va faire un peu de biologie. Yeux, il y a deux types de bâtonnets. Il y a le rouge et le vert. Et en fait, la première couleur qu'on voit en tant qu'humain, c'est le rouge. Pourquoi? Parce que c'est la couleur du sang.
D'accord.
Et donc, si on est blessé, on a besoin de voir tout de suite qu'on est blessé et qu'on est sûr. Et en fait, les couleurs n'ont pas le même effet sur la psyché des gens. Et quand vous lisez une bande dessinée toujours jaune, d'un coup, hop, ça passe au bleu. En fait, le corps, il s'est habitué au jaune. Le bleu arrive, il est dépaysé, déraciné. On a l'impression qu'on l'a emmené très loin. Et c'était important dans ce livre pour faire participer le lecteur aux émotions du héros.
Et le rose est très présent.
Le rose de la Syrie, bien sûr.
Et de ne pas vouloir donner de couleur de peau.
Non mais voilà, il y a plein de façons.
Même les noirs, vous les dessinez blancs.
Ah ouais, mais alors c'est marrant, j'ai jamais vu les noirs noirs. Personnellement, je trouve qu'ils...
Non, les enfants disent marron d'ailleurs.
Oui, mais c'est noir. Vrai que ça ne viendrait pas à l'idée de les
brunir.
Non,
non, mais c'est bien.
C'est un vrai.
Tout le monde est la même couleur.
Ah ouais, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de différence de...
Très œcuménique tout ça. Ce qui n'est pas du tout le cas de Daniel Morac.
Enfin, une bonne nouvelle qui va faire plaisir à mon ami le maréchal Ganache. Ça y est, c'est officiel, la promesse du candidat Macron, le service national universel, va voir le jour, premier appelé, au mois de juin prochain. Ça vous fait plaisir, maréchal?
Ah, affirmatif! Ça fait un bien fou d'entendre de la belle musique, surtout dans cette radio de bolchevique à la mort moelle-neuve.
Ah, vous en pensez quoi du retour du service national?
Il était temps qu'en France, on prenne des mesures pour recadrer tous ces petits branleurs qu'on appelle jeunes. Tous ces petits mecs qui ne foutent rien de leur journée à part Écoutez, maître Jim.
Non, maître Gims. Gims, voilà, pas Jim.
Bon, on s'en fout. De toute façon, c'est de la merde. La seule vraie bonne musique, c'est la musique militaire. Contre les Viettes, contre
les... Oui, merci, maréchal, merci, c'est bon.
Tiens, voilà du boudin.
On n'est pas là pour chanter, maréchal, on est là pour parler du retour du service national, un retour qui fait votre joie, et j'aurais aimé savoir pourquoi.
Eh bien, vous allez savoir pourquoi, tout simplement, parce que les garçons sont devenus des larves, des lopettes. Ça va leur faire du bien de rentrer dans leur rang.
Les garçons et les filles, maréchal, elles sont aussi concernées.
Comment ça ?
Oui, le service national universel, c'est pour les garçons et les filles de 16 ans.
Mais enfin, c'est quoi cette décision à la con ? Depuis quand les filles font leur service militaire ?
Attention, maréchal, c'est pas un service militaire, c'est un service national.
Enfin, merde ! J'espère qu'on va quand même les envoyer à la guerre, tous ces petits salauds !
Mais non !
Mais ça sert à quoi, alors ?
Ben, ça va servir à leur faire connaître la vie en communauté, d'apprendre à connaître l'autre.
Mais enfin, on passe pas 18 mois de service à connaître l'autre.
Non, maréchal, le service national, c'est plus 18 mois. Ça, c'était en 1950. Aujourd'hui, c'est... un mois.
Un mois ?
Oui, un mois.
Mais en un mois, on peut pas apprendre les bases.
Mais quelles bases ?
Eh ben les bases, bon Dieu ! Le combat rapproché, le lancer de grenades, le corps à corps, les différentes méthodes de mise à mort, les techniques de torture...
Non, 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 je vous arrête, le service national, c'est un mois obligatoire qui se décompose en deux temps. 15 premiers jours, une période en hébergement collectif, durant laquelle ils apprendront des trucs comme les premiers secours.
Ah, ça c'est bien. Ça sert toujours de savoir faire une amputation.
Voilà. Puis 15 jours de mission d'intérêt général au sein d'associations, de collectivités locales ou d'organismes publics.
Ah, mais c'est des trucs de communistes, ça. Des trucs de végano, coco, mon cul, la balayette.
Non. C'est rendre service et s'occuper... s'occuper d'une jeunesse parfois désœuvrée ou à la recherche de motivation dans une société qui les a parfois oubliés ou tout simplement dans un schéma de vie où ils manquent de repères. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Achal? Mais pourquoi est-ce que vous riez?
Oh, je rigole parce que tu parles comme un de ces bobos de gauche qu'on trouve à France Inter.
Moi? De gauche? Non mais ça va pas. Et pourquoi pas socialiste pendant que vous y êtes?
Ah non, j'irai pas jusque là.
Quand même.
Mais on n'est pas loin non plus.
Modérez vos propos, s'il vous plaît.
En tout cas, pour la jeunesse en manque de repères, comme tu dis, il n'y a pas 36 solutions. C'est le camp de rééducation ou la prison.
Mais, oh, et le dialogue alors?
Oh, ben écoute, tu recommences, tu parles comme un mec de gauche.
Ok, je me tais. Alors le service national universel, ça va commencer en juin prochain et ça ne sert à rien.
Bravo, bien parlé, Morin. Ah,
merci, maréchal. À demain.
Ça dure un mois, c'est ça.
Ouais. Merci.
Et les Morin, bien.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Riyad Satouf, l'arabe du futur 4, on en a dit le plus grand bien à ce micro, c'est chez Alary Éditions, c'est en tête des ventes, qualifié de bande dessinée, ce qui est le cas, il y a, évidemment il y a votre dessin, il y a cette rondeur avec laquelle on s'attache, on se reconnaît même dans tel ou tel personnage, mais il y a surtout les bulles, les textes, alors si c'est pas des bulles d'ailleurs, il y a tous les commentaires, toutes les flèches qu'il y a autour, parce qu'il y a plusieurs lectures, plusieurs degrés de lecture et même d'ironie au sein même d'une même planche, et c'est très intelligent, on se fait embarquer comme un très bon roman et dont on a envie de connaître la suite. De quoi êtes-vous le plus fier d'ailleurs quand vous rencontrez vos lecteurs ?
Je crois que sincèrement, la chose dont je suis le plus fier, c'est que je crois qu'il y a énormément de gens qui lisent l'Arabe du futur et qui ne lisent pas de bande dessinée d'habitude. Mmh. Et en fait, ça faisait partie d'un de mes buts quand j'ai commencé à faire l'Arabe du futur, c'est que je voulais le faire pour que ma grand-mère puisse le lire. Alors elle n'est plus, mais elle avait horreur des BD, et je me disais, quel type de bande dessinée j'aurais pu faire qu'elle aurait aimé lire. Et j'adore quand des lecteurs viennent me voir et me disent que bah voilà, ils aiment pas les BD, mais que les miennes, ils arrivent à les lire. Je fais des dessins simples, expressifs, avec des textes, et surtout des bandes dessinées assez épaisses pour qu'on puisse les lire pas en 5 minutes, quoi. Voilà. C'est vrai que je crois que c'est ce qui me fait le plus plaisir.
Enfin, sauf que pour votre grand-mère, c'est écrit petit quand même. Hein,
ah, vous trouvez?
Non,
c'est
moi,
parce que vous voulez non, pas moi, mettre de lunettes.
Non, moi ça va. Non, mais moi ça va. Moi ça va. Mais je me dis que c'est écrit, c'est très dense en tout cas.
Lire, oui, c'est dense.
C'est très très dense.
Il faut qu'il y ait des choses à lire.
Il y a des gens qui peuvent faire aussi le trajet inverse, c'est-à-dire qui ne lisent que des BD, peuvent être amenés à lire des récits d'enfance, des très bons récits d'enfance. Parce que ça, c'est un récit d'enfance absolument extraordinaire. Je pensais notamment, on en parlait tout à l'heure, Ma vie secrète de Salvador Dali, qui il y a des points communs par l'humour, par le sens de l'observation et le côté rosse et tendre en même temps. Et donc, ça peut amener des gens aussi à la littérature. Et c'est ça qui est formidable.
Ça pourrait être juste écrit.
Est-ce que ça, non. De toute façon, moi, la bande dessinée, je trouve que c'est plus fort que le roman.
J'entends, mais si on ne prenait que le texte, Évidemment qu'il manquerait quelque chose, mais c'est quand même puissant. L'histoire est quand même forte.
C'est difficile vraiment à dire. C'est vrai que même quand j'écris mes bandes dessinées, quand j'écris l'Arabe du futur, les deux viennent en même temps, le dessin et le texte. Le premier manuscrit que je fais au départ, c'est les deux.
Oui, sauf que dans votre tête, vous avez la situation et le dialogue, et donc vous faites le dessin.
Oui, mais non, parce que je vois c'est un tout, c'est une langue vraiment. D'accord. La bande dessinée. J'ai fait deux films, j'ai écrit des scènes du film en BD. C'est comme une autre visuel et texte en même temps. Tout.
Oui, ça c'est un storyboard.
Oui, mais avec les textes en plus.
D'accord. Justement, l'écriture dessinée, c'est le sous-titre de la rétrospective de votre travail à la Bibliothèque publique d'information de Beaubourg, sorte de consécration, hein, c'est jusqu'au 11 mars.
Non, c'est super, c'est génial. Ouais, ouais,
vous avez eu deux fauves d'or à Angoulême, César, vous êtes dans le Robert, il vous manque quoi?
Des textes extrêmement musclés comme Arnold Schwarzenegger. Il faut que je me lance dans la muscu. Il faut que je commence.
Faut faire des pompes et des abdos, Riyad.
Ouais, mais. C'est fatigant.
Les Cahiers d'Esther ont été adaptés en dessin animé, 50 épisodes de 2 minutes chacun, diffusés depuis le 3 septembre en clair sur Canal à 20h55. C'est ça, tous les jours. Mais c'est bien, ça. En plus, ça fait vous créer des emplois, parce qu'il y a du monde qui travaille là-dessus. Donc c'est vrai. Il y a quoi, une équipe de 60 personnes, je crois, qui travaillent
dessus. Oui, pour les Cahiers d'Esther, c'était une assez grosse équipe, oui, qui a fait ça.
C'est le studio Dromois Folimage.
Folimage, tout à fait.
Qui vous a contacté pour avoir l'idée. Et c'est vous qui choisissez les voix.
Ah ouais, non, comme je vous le disais, je suis de plus en plus maniaque. En fait, j'ai co-réalisé les épisodes.
C'est ton côté Saddam Hussein.
Ouais, peut-être. Ouais. Donc, j'ai choisi les acteurs, j'ai doublé la voix du père, la musique.
Est-ce que Esther a choisi la vraie, qui ne s'appelle pas comme ça, mais est-ce qu'elle a choisi, elle, sa voix?
Non, c'est moi qui ai choisi. Non. Je ne l'ai même pas fait.
Est-ce qu'elle a vu quand même la série?
Oui, elle aime bien. Elle trouve ça.
Ça passe.
Mais comme c'est pas. Voilà, elle s'est un peu éloignée aussi, sa voix n'est pas la même, donc elle s'identifie.
Et dans ce côté un peu contrôle de tout, j'ai lu qu'un de vos albums, Ma Circoncision...
Ah oui, je l'ai racheté, je l'ai fait retirer de la vente, je me suis auto-censuré.
C'est fou. Dans la volonté de maîtriser, en fait. Pourquoi? Parce que l'album ne vous plaisait pas?
C'est Ma Circoncision, c'était un peu le prépuce de l'Arabe du futur.
Ouais, ouais. Oh, joli.
C'est que c'est un livre qui n'est plus. En fait, j'avais commencé à raconter un petit peu...
Il faut l'enterrer.
il faut l'enterrer, il était mangé par une souris. Et en fait, j'avais raconté un épisode qui est raconté dans le volume 3 de l'Arabe du futur. Quand j'étais plus jeune et j'étais pas satisfait de ce livre, j'aimais pas le titre, j'aimais pas la façon dont je disais les choses. Donc j'ai réussi à convaincre l'éditeur de me revendre les droits et j'ai tout racheté et tout est dans ma cave.
Mais censurer une circoncision, c'est une double circoncision.
Oui, mais voilà, mais je préférais que le lecteur ait l'histoire dans l'Arabe du futur, en fait. Je voulais pas qu'il y ait deux livres qui se parasitent comme ça.
Les projets, qu'est-ce qu'il se passe quoi en 2019 pour vous, à part ces rétrospectives? C'est le travail sur l'Arabe du futur 5, c'est les Cahiers d'Esther, c'est un autre film?
Un film?
Non, c'est l'Arabe du futur, c'est la suite, il faut que je termine le livre.
On dira pas le contraire.
C'est vrai, mais un film quand même, après. On n'est pas contre. Ouais.
Oui, mais un film, c'est très compliqué quand même.
Enfin,
je suis tellement content à mon bureau, à faire mes dessins.
Tranquille.
Si je veux faire 25 000 figurants, j'ai juste à les dessiner, je n'ai pas besoin d'aller leur trouver un repas chaud, etc. Pour les envoyer, les amener en bus.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, désolé pour Riyad et Albert, ces grands enfants qui ne repèrent que des ombres dans les Tintins, qui ont découvert dans cette émission que le monde était sale, vil, mesquin, jaloux, envieux. Hey, ça va les gars, c'est dans l'émission, ça reste un monde à part. Dehors, c'est pire, bien pire. Désolé pour les Nagui, Riyad, Leïla et toutes ces personnes aux prénoms chelous et humiliants. Alors, loin de moi l'idée de faire dans le racisme, mais il y a quand même un point commun, commun et chelou et un petit peu humiliant, c'est vrai. Désolé pour les habitants de nos chères régions, mix parfait de laideur et d'inculture qui ont été salis, souillés, maltraités, tambourinés, violés par Riyad Satouf quand il s'est lancé dans des imitations gênantes.
Mais vous savez, moi, dans mon école communale...
Pas que ça, il y avait aussi des imitations racistes.
Bonjour, s'il vous plaît, pour sortir, s'il vous plaît.
Ah bah oui, mais ça, c'est son côté breton, qu'est-ce que vous voulez.
Il y avait aussi, ça va pas être possible, tu sais, pour rentrer en boîte de nuit.
Non, désolé, monsieur. Bonsoir, avec TV.
Il a tous les talents.
Merci, Riyad Satouf.
Merci.
Surtout, bravo, mille fois pour l'Arabe du futur 4. La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même adresse, sur France Inter pour parler cuisine, pour parler musique et pour parler nostalgie, mais tout ça avec Dave qui sera notre invité. Tout de suite, ce sont les Carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonne journée.